Merci, je ne sais pas s'il y a vraiment besoin du micro. Je dois arriver jusqu'au 6e rang à peu près sans micro, ça, c'est bon. Alors merci à Frédéric de m'avoir invité à participer à cette table ronde. En fait, j'en suis très content de parler ici. Alors de Méditerranée, ce n'est pas tellement l'objet sur lequel je me suis le plus investi, mais en tout cas de littérature davantage, ou d'écriture de statuts différents, sur écriture scientifique, écriture littéraire, puisque c'est un peu sur ce type de sujet que j'avais déjà travaillé. Et en voyant le thème sur lequel on va se pencher aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui me sont venues, mais d'abord, me sont venues plutôt des textes à statut hybride. C'est-à-dire qu'en vérité, en essayant de croiser la Méditerranée avec d'un côté des écritures de type scientifique et de l'autre côté des écritures de type littéraire, en vérité, ce qui vient immédiatement, ce sont plutôt des textes qui ont des statuts qui enlèvent et d'un genre et de l'autre. Et là, il y en avait deux, notamment, qui me sautaient aux yeux immédiatement, que j'avais à l'esprit pour des raisons différentes. Le premier, c'était cette belle revue qui s'appelle Apulée, qui est la revue d'Hubert Haddad et qui est une revue dont le sous-titre, et c'est intéressant, revue de littérature et de réflexion. Et parce que, alors évidemment, pas parce qu'il y a de la littérature sans réflexion, mais parce que toute la réflexion n'est pas sous forme littéraire. En tout cas, pas sous la forme qu'on met derrière le mot littérature. Et cette revue, elle m'avait beaucoup plu lors de son premier numéro qui était thématisé autour des galaxies identitaires. C'était le sous-titre un peu, c'est le thème du numéro, galaxies identitaires. Et elle m'avait plu parce qu'effectivement, elle était sous le patronage de cette figure un peu particulière qui a appelé, qui est c'est le citoyen romain, mais qui est berbère, on va dire de nation culturelle, et qui en même temps connaît un certain nombre de problèmes vis-à-vis de son statut de romain et de berbère, puisqu'à un moment donné, on finit par lui faire un procès en romanité. Est-il vraiment un bon citoyen romain? Et donc, il incarne, y compris et d'abord dans sa personne, un peu ce statut particulier de transgresseur de frontières, qu'on retrouve par ailleurs dans le texte qui fait qu'on le connaît encore aujourd'hui, hein, puisqu'on le connaît parce qu'il est l'auteur d'un texte, qui est Les Métamorphoses, qui est un roman tout à fait étrange, enfin, qui raconte l'histoire d'un bonhomme lui-même, parce que finalement, c'est le personnage principal, c'est en quelque sorte, on pense-t-on, l'auteur du texte, se fait transformer en âne, et puis doit mener un parcours initiatique pour aller manger des roses quelque part, pour retrouver sa forme humaine, peut-être. Donc, un roman sur initiatique, qui parle d'initiation, qui parle de transformation et de franchissement des genres, des frontières, des espèces, puisque c'est la transformation, en âne d'un être. Je dirais que c'est ce premier texte qui m'est venu à l'esprit et qui représente bien la difficulté qu'il y a, en quelque sorte, à bien séparer les genres. Un autre texte, beaucoup plus, enfin, à la fois récent, mais en même temps très différent, qui me vient à l'esprit, c'est plus une revue, c'est un livre de quelqu'un que j'ai bien connu, puisque c'est celui qui a fondé la revue Ethnologie française, qui est mort maintenant, Jean Cuisenier, et qui, parmi les différents textes, pour le coup très scientifiques, c'était même quasiment scientiste longtemps, Jean Cuisenier, a fait dans son style tardif, comme dirait Edouard Saïd justement, fait dans son style tardif des textes d'une nature très différente, et notamment un qui s'intitule Le périple d'Ulysse. Alors là, on est complètement dans la Méditerranée. Et le périple d'Ulysse, c'était un projet d'abord, dans lequel Cuisenier voulait refaire les voyages d'Ulysse et voulait prouver, c'était pas totalement inédit, hein, bien évidemment, voulait prouver en quelque sorte que le récit d'Homère n'était pas simplement un récit narratif, fondé sur des éléments mythiques, mais en même temps recouvrait des réalités historiques d'une part et ethnographiques d'autre part. Et donc il a monté une expédition au vieux sens des expéditions, avec un photographe, un botaniste, des charpentiers de marine, des marins expérimentés, lui-même se considérant à la fois comme un ethnologue et un marin expérimenté, à juste titre, et donc lance une expédition sur les traces d'Homère et refait Homère en quelque sorte en Méditerranée. Et puis il en sort un livre, Le périple d'Ulysse. Et ce livre, il a un statut étonnant parce qu'il est à la fois tout à fait scientifique, c'est-à-dire que ça a vraiment vocation, même expérimental, ça a vocation à vérifier, à partir du texte d'Homère, à quel point on peut faire confiance à ce texte pour nous dire des réalités sur la navigation au 9e siècle avant Jésus-Christ, sur la question des marins, sur les croyances, sur les façons d'accoster, enfin, etc., etc. Donc il y a un texte tout à fait avec cette volonté scientifique là, et puis il y a en même temps la tenue d'un journal de bord. Donc le périple d'Ulysse est en même temps un journal de bord qui est un journal de terrain, et dans lequel il fait une petite ethnographie maritime, ce qu'est être marin, etc., etc. Donc il y a ce premier statut. Et en même temps, le périple d'Ulysse, c'est aussi une odyssée moderne, en fait. C'est une réécriture par Jean Cuisenier, une tentative de réécriture par Jean Cuisenier de l'Odyssée. C'est la construction d'un mythe, à la fois la reconstruction d'un mythe qu'on connaît bien, et puis la construction de sa propre figure à lui, à l'auteur, à Jean Cuisenier, qui se pense hein, comme une sorte de nouvel Ulysse sur son bateau à travers la Méditerranée, et qui a, en faisant ça, donc dans son processus d'écriture, à l'esprit, et quand on lit le texte, on retrouve facilement les origines, enfin l'intertextualité qui existe, avec des vieilles expéditions scientifiques. On lit La Pérouse, on lit Darwin et Beagle, on voit Conrad, on voit un peu Michaud, on voit, c'est-à-dire, à la fois les écrivains voyageurs et puis les vieilles expéditions scientifiques qui sont comme précipitées en quelque sorte dans son texte et qui en font la trame littéraire en quelque sorte, sans qu'elle ait pu véritablement accéder. Le texte se présente comme un texte qui relate une expédition scientifique. Et puis cette ambition littéraire, Jean Cuisenier qui l'avait sans l'assumer, et puis l'assume de plus en plus, il finit par totalement l'assumer dans un dernier texte qu'il a écrit de son vivant, bien sûr, enfin je veux dire qu'il avait achevé de son vivant, c'est plutôt ça, qui n'a pas été publié, parce qu'il était refusé par la maison d'édition Actes Sud, très, très important comme choix de maison d'édition, et puis il n'y avait que celle-là qu'il avait à l'esprit. C'est un texte qui l'avait intitulé Paris-Istanbul, et dans lequel il voulait en fait refaire, un petit peu comme faisaient les voyageurs arabes à l'époque au Moyen-Âge, c'est-à-dire ces récits des routes et itinéraires, avec des étapes, avec un petit panorama des lieux visités, enfin, sur le Paris-Istanbul, qui avait un côté très autobiographique, qui était l'occasion en même temps de visiter son œuvre, de revisiter pour lui-même son œuvre scientifique, sous un format tout à fait, pour le coup, littéraire. Donc une progression, je dirais, en quelque sorte, chez Jean Cuisenier vers la littérature. Et ces statuts de ces textes un peu différents, statuts un peu hybrides, hein, d'une certaine façon, m'ont fait repenser à l'instauration de la frontière, finalement, qui s'était installée au sein de la discipline, qui est probablement la discipline la plus littéraire du paysage scientifique, l'anthropologie, sur l'instauration de cette frontière hein, entre écriture littéraire et écriture scientifique, et qu'on peut très précisément situer entre la fin du XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle, et le milieu du XXe siècle, où là, véritablement, de pair avec l'institutionnalisation de la discipline, et par nécessité, il fallait qu'elle devienne une science, et pour ça il fallait qu'elle se débarrasse en quelque sorte de son boulet littéraire, pour plein de raisons, et notamment pour plusieurs raisons. Et la personne qui, à mon avis, enfin celui qui a le mieux démontré l'efficacité de cette nécessité de coupure, c'est quelqu'un qui s'appelle Vincent Debanne, qui est un type formidable, qui travaille aujourd'hui à l'Université de Genève et qui a proposé une théorie, mais qui marche très très bien, qu'on peut affiner encore, hein, mais qui marche très très bien déjà en l'état, qui est la théorie des deux livres de l'ethnographe. C'est-à-dire qu'il identifie très clairement, surtout après la Première Guerre mondiale et jusqu'au sortir de la Seconde Guerre, le fait que les ethnologues, désormais, quand ils partent sur un terrain, puisqu'ils partent de plus en plus sur un terrain, quand ils partent sur un terrain et qu'ils en reviennent, ils reviennent avec ce qu'ils doivent apporter, un livre scientifique, par exemple les structures élémentaires de la parenté, d'une part, mais en même temps, ont rejeté, leur ambition littéraire, non plus dans les marges ou dans les notes ou dans les passages d'un ouvrage, mais en font un livre à part, qu'ils peuvent publier ou ne pas publier. En l'occurrence, pour Lévi-Strauss, il publie Triste Tropique, qui est son livre littéraire par rapport à son livre scientifique Les Structures. Et ça marche pour plusieurs autres personnes. Ça marche pour les RIS très très bien, sauf que lui, il publie surtout les textes littéraires et réserve en quelque sorte le livre scientifique pour beaucoup plus tard, après sa tentative de suicide, hein, sur donc un livre scientifique sur la possession par les arts, d'une part. Griot fait la même chose, met son œuvre scientifique d'un côté et en même temps publie les Flambeurs d'hommes par ailleurs, enfin, etc., etc., etc. Théorie des deux livres, donc séparation des registres d'écriture. Et la vérification, ou la preuve qui finit de valider cette théorie-là, pour le coup, Vincent Deben ne la présente pas parce que ce n'était pas son registre, mais ça confirme complètement cette position, c'est le fait que les moins légitimes des ethnologues de l'époque, c'est-à-dire les femmes, les moins légitimes des ethnologues de l'époque, sont celles, en l'occurrence, qui publient le moins de littérature, c'est-à-dire qui donnent à leurs textes la plus grande aridité scientifique, comme pour compenser leur problème de légitimité dans un autre genre, d'une certaine façon. Et donc, et là vous avez des travaux formidables de Marianne Lemaire sur ces questions-là, où vous voyez exactement comment certaines d'entre elles, par les brouillons qu'on retrouve, etc., gomment tout ce qui pouvait faire affectif, littéraire, non scientifique, non objectivable, enfin, etc., etc., et privilégient les tableaux, les récits extrêmement froids, enfin. Et ça, dans les années 20, 30, 40, jusque dans les années 60 encore. Donc on a vraiment cette question des deux livres. Alors aujourd'hui, évidemment, on est dans un monde où cette frontière-là se fissure complètement, bien sûr. Depuis, ça a été un petit peu mentionné dans l'introduction, depuis les travaux sur la question de la poétique, de l'ethnographie, où effectivement, l'inévitable dimension littéraire et construction narrative du récit ethnographique, ça fissure un peu la frontière. Et puis, bien évidemment, la réévaluation depuis la littérature des connaissances de type anthropologique. Et là, les relectures qu'on peut faire aujourd'hui de Pérec, de Gérard Massé, de Pascal Quignard, enfin voilà, des personnes qui mobilisent de façon tout à fait explicite de l'ethnologie.
Pérec qui était sociologue.
Et qui était sociologue de formation, qui monte une petite revue. Enfin, donc, un sociologue, pour le coup, très observateur. Pas le sociologue quantitativiste, enfin voilà, c'était l'école de Duvigneau, enfin voilà, c'est ce petit monde, ouais. Très, très intéressant. Donc deux mondes qui s'observent finalement et qui reprennent leur croisement. Et ça m'a fait penser, et je terminerai là-dessus, et comme ça après on pourra ouvrir le débat, ça m'a fait penser que finalement, malgré la coupure forte qui avait été instituée entre les registres d'écriture pour les anthropologues, il y avait quand même il y avait quand même des fissures dès le départ, enfin, il y avait des points de contact qui restaient dès le départ, y compris au moment de la grande séparation, dans ces années 10, 20, 30, enfin, cette première moitié du XXe siècle. Il y avait, y compris à ce moment-là, y compris chez les plus scientifiques ou les plus scientistes des anthropologues, y compris chez eux, il y avait un reste de littérature qui continuait d'irriguer les textes. Et là, je prends juste un exemple, peut-être pour en mobiliser d'autres ensuite, un exemple qui est assez révélateur, enfin très révélateur de ça. Presque le plus scientifique des anthropologues, qui n'a cessé de redevenir le plus scientifique, celui qui avait proposé une théorie scientifique de la culture, Malinowski, qui avait cette fascination pour les sciences expérimentales, qui développe sa méthodologie d'observation. Bon, le scientifique, vraiment, qui érige l'anthropologie vraiment comme science. Tout le monde sait, tous ceux qui ont une formation d'anthropologie savent que la grande découverte de Malinowski, c'est bien sûr l'Akula, ce système, l'anneau de l'Akula, les échanges. Ce qu'on sait un peu moins généralement, c'est qu'il présente cette découverte dans son journal d'ethnographe comme à la manière dont les écrivains présentent des découvertes d'une certaine façon, c'est-à-dire comme une illumination. C'est une illumination. Le voile déchiré sur la Akula, il raconte ça dans un passage du journal. Le voile déchiré sur la Akula, et ce voile déchiré, il ne dit pas d'où vient la déchirure, en quelque sorte. Comment est-ce qu'il a l'idée? Il laisse entendre dans ses textes que c'est les observations répétées, c'est d'assister à un échange à un moment donné de bracelets, de colliers, qui lui fait penser que ceci. En vérité, quand on observe quand on lit son journal et quand on lit la correspondance échangée, en particulier avec sa femme, on peut supposer, en tout cas c'est ce que plusieurs personnes, une en particulier qui a mis le premier le doigt là-dessus, c'est Carlo Ginzburg, laisse supposer qu'en fait c'est la lecture par Malinowski d'un récit littéraire qui lui fait formuler la première idée de l'existence même du principe de la couleur. Ce petit récit littéraire, c'est un récit qui est publié dans un groupe de nouvelles de Robert Louis Stevenson, qui est vraiment un type très important. Et ce récit, c'est La bouteille endiablée. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce récit de La bouteille endiablée. Stevenson, vous le savez, s'installe longtemps à Samoa. Enfin, c'est vraiment, il est longtemps installé à Samoa. Et à Samoa, il fait ce qu'il fait, ce qu'il faisait par ailleurs à Londres. Hein, il raconte des histoires. Tant et si bien qu'on avait fini par l'appeler, les Samoans l'avaient surnommé le conteur d'histoires, Tuzitala, en Samoa. Donc, d'ailleurs, il avait assumé le surnom, il signait Tuzitala, ses lettres. Et parmi les récits qu'il fait là-bas, et le premier récit qui va être publié, imprimé et publié en Samoan, c'est une traduction de ce texte de Stevenson, La bouteille endiablée. L'idée, c'est quoi? En fait, c'est un vieux mythe, hein, c'est une vieille légende. C'est une combinaison en fait de plusieurs légendes, mais en tout cas le thème c'est le suivant. On a un objet qui circule d'individu en individu et qui est obligé de circuler. Sa possession rend la personne, donc là c'est une bouteille, en l'occurrence ici une bouteille endiablée, il y a un diable dedans qui vous permet d'avoir tout ce que vous voulez, mais à un moment donné vous devez vous en séparer. Parce que posséder trop longtemps l'objet peut vous nuire, peut vous conduire à la mort, etc. Et vous devez vous en séparer. Et vous devez le vendre, raconte précisément Stevenson, vous devez le vendre à un prix inférieur à celui auquel vous l'avez touché, vous. Ce qui fait qu'à un moment donné, la bouteille devient incédable. C'est-à-dire qu'ils disent, au moment où le récit commence, ça valait 50 dollars. Bon, 50 dollars, ça va. Enfin, la vendre 40, puis 30, et puis ensuite il perd la bouteille de vue, et puis il la retrouve, elle est tombée à 1 cent. 1 cent, il n'y a presque plus, si on la rachète, un demi, il n'y a presque plus aucune chance en fait de trouver, c'est ça le problème, il n'y a presque plus aucune chance de trouver une monnaie assez petite pour pouvoir diviser encore ensuite. Donc la quête de la bouteille, ou plutôt du fait de se débarrasser de la bouteille, devient en même temps une quête de la monnaie la plus petite. Et alors à l'époque de Stevenson, la monnaie la plus petite était en France. Donc il fallait les centimes, c'était formidable parce qu'évidemment ça divisait à l'infini quasiment le prix des choses, donc on pouvait continuer l'échange et la circulation de la bouteille. Et la proposition que fait Ginsburg, et on peut l'étayer de plusieurs autres manières, mais je laisse un petit peu la chose en l'état, la proposition de Ginsburg, c'est que c'est ce récit de Stevenson sur la bouteille endiablée, cette circulation, cet objet qui possède une force qui l'oblige à circuler, en quelque sorte, qui est à l'origine de l'idée de Malinowski, de ces objets qui ont des forces qui les obligent en quelque sorte à circuler, qui sont ces objets d'échange de la couleur, ces bracelets, ces colliers de coquillages. Et là, on a quelque chose qui, pour moi, est très important dans les relations entre littérature et anthropologie, de mon point de vue en tout cas, c'est-à-dire la puissance de la vision de l'écrivain d'une certaine façon, qui anticipe toujours un peu, mais de façon différente parfois, qui anticipe un certain nombre de phénomènes et qui permet ensuite à l'ethnologue de véritablement les concevoir et de les voir même, tout simplement. Et ça, c'est la différence qu'il y a, y compris au plan presque méthodologique, entre l'écrivain qui voit et l'ethnologue qui observe. Observer, c'est pas encore voir un certain nombre de choses. Pour les voir, il faut qu'il y ait une petite théorie qui peut être formulée de façon littéraire. Auparavant, mais la théorie, c'est voir, hein, justement. C'est ça l'origine du terme. C'est la vision d'un phénomène. Voilà un peu comment moi j'aurais présenté les choses, et après on peut en parler, bien sûr.
Merci beaucoup.